Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Le Visage du Monde. Petite chronique scientifico-culturo-poétique. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un oiseau qui, depuis la nuit des temps, suscite chez l'homme des sentiments ambivalents. Le vautour. Haï ou adoré, ce rapace, porteur de symboles depuis l'Antiquité la plus lointaine, est aujourd'hui détesté pour l'intimité qu'il entretient avec la mort. On le trouve laid, sale, on lui prête des intentions mauvaises. Son appétit pour les cadavres éveille en l'homme dégoût et répugnance. Et pourtant, pendant des millénaires, différentes cultures ont fait de cet oiseau un symbole de création de la vie et l'emblème de la féminité, de la maternité et de la fertilité. Le passé symbolique et mythologique du vautour est aussi remarquable qu'oublié. Alors, partons à la rencontre de cet oiseau fascinant, qui est à la fois figure de mort et de naissance, de création et d'anéantissement. Tout d'abord, les amours des vautours et du vent. La croyance de relations fécondantes entre les animaux et le vent est extrêmement ancienne et s'est répandue sur une aire géographique très vaste, allant du Portugal au Japon. La plus ancienne source qui mentionne cette idée est l'Iliade d'Homère, où le vent, Boras, féconde les 3000 juments du roi Erichthonios. Aujourd'hui encore, le folklore des Aïnous, une ethnie qui vit à l'extrême-est de la Russie et au Japon, mentionne des croyances de ce type. Dans la mentalité antique, le vent et le souffle ont des pouvoirs d'origine divine. Bien avant que l'on ne connaisse le mécanisme de la pollinisation, on disait que le zéphyr était responsable de la fécondation des arbres. Les Égyptiens anciens croyaient aussi que les vautours étaient uniquement femelles et fécondées par le vent. Aurapollon, philosophe alexandrin qui vécut au 5e siècle, écrivit au sujet des Égyptiens et rapporte ainsi leurs pensées. Le vautour est employé pour désigner la mère, parce qu'il n'y a que des femelles chez cet oiseau. Voici, disent-ils, de quelle manière il est engendré. Lorsqu'il est en amour, il ouvre au vent du nord les parties génitales et en est comme fécondé pendant 5 jours. Il semble y avoir 2 raisons principales à ce type de croyance. Chez les vautours, les 2 sexes sont physiquement indiscernables. Les mâles et les femelles ont la même taille et arborent le même plumage. De plus, ces oiseaux construisent leur nid et élèvent leurs petits à flanc de falaise, dans un environnement très venteux. En raison de l'isolement et de l'inaccessibilité de ces lieux, accouplement, nid et jeunes restent cachés à l'œil humain. Ce que l'homme ne voit pas, il en suppose l'inexistence. C'est ce que soutient Aristote qui rapporte. Personne n'a jamais vu le nid du grand vautour. Ou encore Plutarque, qui affirme qu'aucun mâle n'a jamais été observé et que ses rapaces sont donc uniquement femelles. D'après lui, ils volent face au vent du sud, ouvrent leur bec et donnent vie à un petit après 3 ans de gestation. On croyait aussi que les femelles donnaient la vie à des petits déjà emplumés, sans même pondre d'œufs. Certains supposaient même que ces oiseaux venaient d'un autre monde. Aussi fantaisistes que ces croyances puissent paraître, elles ont créé autour du vautour une représentation très forte du féminin. Que cet oiseau n'ait pas besoin de mâle pour engendrer en fait un symbole de toute puissance féminine et maternelle. De l'an 46 à 1675, de nombreux auteurs ont rapporté et perpétué cette croyance, qui, nous le verrons, a même influencé les premiers chrétiens. De plus, le vautour était considéré comme un parent hors du commun. Les Grecs disaient d'eux qu'ils étaient affectueux et exceptionnellement maternels avec leurs jeunes. Par exemple, Aurapollon rapporte qu'en cas de pénurie de nourriture, le vautour est capable d'ouvrir sa cuisse et de nourrir son jeune de son propre sang. L'origine de cette croyance vient probablement du fait que le vautour se nourrit de charognes et alimente ses petits de chair ensanglantée. L'imagination antique a fait le reste et donné au vautour le sens du sacrifice parental. Ainsi gratifié de dons maternels extraordinaires, le rapace occupait une place de choix au sein du panthéon des dieux égyptiens. En effet, il compte 2 déesses vautours très similaires et souvent confondues. La première, Nekhbet, très ancienne, est apparue dès l'époque prédynastique, une période qui va de 5500 à 3150 ans avant Jésus-Christ. Elle était la protectrice de la Haute-Égypte et l'emblème des reines. les souveraines arboraient des coiffes représentant un vautour fauve posé sur le sommet du crâne, ses ailes reposant de chaque côté de la tête en signe de protection. Le cou et la tête de l'oiseau, portés au-dessus du front, pointés vers l'avant et surmontaient fièrement le visage. Le vol protecteur de Nekhbet, déesse de la naissance, était parfois peint ou gravé au-dessus d'une reine représentée en train d'accoucher. Nekhbet plane également au-dessus des couples royaux, les protégeant dans la vie et dans la mort. Cependant, comme tout vautour, cette déesse fait preuve de dualité. Dans certaines histoires, elle est la femme de Khenti Amentu, le roi des morts. Elle se délecte des corps des trépassés, puis les protège dans l'au-delà. Dans d'autres récits, elle est l'épouse d'Api, celui qui ouvrait les portes du Nil et laissait s'écouler son flot généreux. Le Nil étant ardemment vénéré par les Égyptiens pour ses crues annuelles qui fertilisaient les champs de l'Empire et nourrissaient ses sujets, Nekhbet était ainsi associée au pouvoir créateur et à la fertilité. Mout, la seconde déesse vautour, fut l'une des figures divines les plus importantes de l'histoire religieuse de l'Égypte ancienne. Protectrice de Thèbes, elle était la femme d'Amon, dieu de la fertilité à tête de bélier. Souvent représentée avec un corps de femme et une tête de vautour, la déesse Mout est très clairement associée à la maternité. En égyptien, le mot même de Mout signifie mère, et le hiéroglyphe représentant ce mot est un vautour. Au cours du Nouvel Empire, de 1550 à 1070 avant Jésus-Christ, Thèbes prit une importance politique de plus en plus grande. Amon fut élevé au rang de dieu soleil, Amon-Ra, vénéré plus que tout autre en tant que dieu principal. Toutes les autres divinités n'étaient plus considérées que comme des facettes d'Amon-Ra. Bénéficiant de l'ascension de son mari, Mout devint la grande déesse et assimila les autres déesses telles qu'Hathor, Sekhmet, Bastet, Isis et Nekhbet elle-même, désormais perçues comme des aspects de Mout. C'est à partir de cette période que l'on retrouve l'attribut du vautour chez Isis, l'une des déesses les plus connues du panthéon égyptien, liée à la nature, à l'agriculture, ainsi qu'à l'amour et à la maternité. Ainsi, sur un couvercle de sarcophage retrouvé à Saqqara, Isis est représentée avec un corps de femme et des ailes de vautour. Comme Nekhbet, Mout est pourvue de pouvoirs ambivalents, de fertilité et de mort, du fait de son mariage avec Amon-Ra. Originellement symbole de fertilité, Amon était aussi un dieu de mort, car les divinités créatrices de vie sont aussi celles qui sont craintes, ayant le pouvoir de reprendre ce qu'elles ont généreusement donné. Too long. C'était Don't Help Me de Pamela Hutt. Chez les Grecs anciens, le vautour n'était pas un animal sacré, car la plus grande peur de ces hommes était de finir dévoré par ces charognards sur un champ de bataille. Plus cruelle que la mort elle-même, cette fin ignominieuse, qui privait l'âme de sépulture et donc du repos éternel, était la plus terrible des destinées, et celle qu'ils souhaitaient à leurs pires ennemis. Les Grecs pensaient que les vautours suivaient les armées, sachant qu'ils pourraient faire bombance après la bataille. Ces oiseaux étaient donc honnis, puisqu'ils profitaient de la misère des soldats. Cependant, comme chez les Égyptiens, le vautour est aussi, chez les Grecs, le protecteur des femmes, lié à la fertilité et à la maternité. Ils considèrent les vautours comme les animaux qui s'occupent le mieux de leurs petits. D'autre part, si l'on se penche sur la mythologie grecque, on découvre plusieurs exemples des liens entre vautours et fertilité. Iphiclos est un homme qui ne peut pas avoir d'enfants et qui reçoit l'aide du dévin Mélampous. C'est un vautour qui apparaît à celui-ci, explique les raisons de l'incapacité d'Iphiclos et en donne le remède. Bien des années auparavant, Phylacos, le père d'Iphiclos, avait sacrifié des béliers, qui sont des symboles de fertilité masculine, en commençant à les découper par les organes génitaux. Puis il avait posé le couteau, encore plein de sang, juste à côté d'Iphiclos. L'enfant prit peur et s'enfuit. Son père planta alors le couteau dans le tronc d'un chêne sacré. L'écorce poussa au point d'envelopper le couteau et de le faire disparaître complètement. Il fallait donc retrouver le couteau, en gratter la rouille et la donner à boire à Iphiclos pendant 10 jours de suite. C'est seulement ainsi qu'il pourrait avoir des enfants. Ayant appris cela par le vautour, Mélampous trouva le couteau, en gratta la rouille et la donna à boire à Iphiclos pendant 10 jours de suite. Au jeune homme naquit alors un fils, Podarcès. Dans un autre mythe, le vautour prend le rôle de vengeur de la féminité offensée. Lorsque le géant Titus tente de violer la déesse Leto, il est condamné par Zeus à demeurer en enfer, où son foie est chaque jour dévoré par 2 vautours. Le visage du monde sur Radio Sainte-Afrique. La chrétienté possède elle aussi une figure féminine forte, la Vierge Marie. Sans être une déesse, puisqu'il s'agit d'un terme païen, Marie en détient tout de même les attributs. On la vénère, on la prie, on la sanctifie. On lui prête aussi un rapport privilégié avec Dieu. Elle a été conçue sans péché, ainsi que son fils Jésus-Christ. La Vierge Marie est en effet considérée comme issue d'une Immaculée Conception, dogme catholique impliquant une fécondation d'origine divine dont toute sexualité est exclue. Ses parents, Anne et Joachim, ne pouvant avoir d'enfants, un ange leur serait apparu pour leur annoncer l'arrivée d'une naissance miraculeuse. Née ainsi, Marie aurait ensuite donné naissance à son fils Jésus par l'intermédiaire du même type de miracle. Cette foi en l'Immaculée Conception prend ses racines dans les croyances très anciennes et païennes de fécondation du vautour par le vent. Cette caractéristique fait du vautour un allié mystérieux du divin. En 248, Origène a utilisé la croyance de la fécondation divine du vautour pour soutenir le dogme de l'Immaculée Conception. Ce théologien chrétien des premiers temps s'exprime ainsi. Il est un certain animal femelle qui n'a pas de relation sexuelle avec le mâle. Les auteurs qui écrivent sur les animaux disent que c'est le cas chez le vautour. Cet animal, sans relation sexuelle, préserve la succession de la race. De même, saint Basile affirme, faisant référence au vautour, « Dieu a donné dans la nature un millier de raisons de croire au merveilleux. » Et saint Ambroise de renchérir. « Serait considéré comme impossible à la mère de Dieu, ce qui est indéniablement cru possible chez les vautours ?» Et voilà comment un oiseau charognard a soutenu la thèse de la pureté originelle de la Vierge Marie. Une question reste en suspens. Comment se fait-il qu'après des millénaires de vénération, le vautour est aujourd'hui l'image négative qu'on lui connaît? En hébreu, le mot qui désigne le vautour est aussi celui qui désigne les mots « compassion » et « utérus ». Pourtant, aujourd'hui même, en Israël, certaines personnes croient encore que les vautours attaquent les moutons et enlèvent les enfants. De même, quand on dit de quelqu'un qu'il est un véritable vautour, il ne s'agit pas d'un compliment. Quant à l'oiseau lui-même, malgré la grâce de son vol et la majesté de son allure, on s'accorde à le trouver laid, repoussant, agressif. Pourquoi ce revirement des représentations au cours du temps? La réponse semble venir de la christianisation. Alors que le rapace était considéré comme un symbole de sacrifice personnel, brusquement, c'est le pélican que les chrétiens ont choisi pour incarner ce rôle. Or, le pélican, lui, est un symbole de sacrifice paternel. Peut-être a-t-on voulu effacer les symboles de toute puissance féminine que représentait le vautour pour les remplacer par des symboles plus masculins. En effet, le pélican semble représenter le sacrifice du Christ, qui est un homme. Les représentations négatives d'aujourd'hui seraient-elles liées au fait que les déesses mères et leurs symboles ailés soient descendus de leur piédestal avec l'avènement de la chrétienté? On peut le supposer. C'était Le Visage du Monde sur Radio Sainte-Afrique. Merci à Tony, à la technique.